Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Bon, mais avec quatre carambolages sur la rive sud en moins de 90 minutes, sur la 10, la 20, la 30, la chronique d'Antoine Joubert tombe pile poil dessus sur le sujet du jour. Antoine, bonjour.
Salut.
Bonjour, qui travaille évidemment pour le guide de l'auto. Et tu veux nous parler de la façon de conduire en hiver?
Ben en fait, c'est que, oui, effectivement, depuis quelques semaines, on roule sur des routes plus enneigées. Il y a des situations un peu plus hasardeuses. Mais on dirait que d'année en année, je réalise à quel point les conducteurs québécois savent de moins en moins conduire et se fient de plus en plus sur les technologies d'assistance à la conduite qu'on retrouve dans les véhicules d'aujourd'hui, qui l'hiver ne fonctionnent pas parce que les capteurs sont obstrués, parce qu'il y a toujours des systèmes qui sont en défaillance en raison du froid, du gel, de la glace, de la neige, des lignes que les systèmes ne peuvent pas lire sur la route. Bref, on se fie là-dessus, comme à la caméra de recul, et à partir du moment où ça, ces accessoires-là ne fonctionnent pas, j'ai presque l'impression que les conducteurs ne savent plus quoi faire. Je veux pas généraliser, mais je me rends compte que moi, j'ai l'impression qu'il fut une époque où les gens savaient davantage conduire parce qu'ils devaient s'impliquer dans davantage dans la conduite automobile parce que la technologie d'assistance n'était pas là sur leur véhicule. Alors qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. La caméra de recul est, par exemple, quelque chose qui est obligatoire sur un véhicule pour qu'il soit vendu au Canada désormais. Alors,
Es-tu en train de nous dire, Antoine, qu'il y a une époque où les conducteurs et conductrices se tournaient pour voir ce qu'il y avait derrière la voiture là, quand ils reculaient?
Ils faisaient leur angle mort, ils conduisaient, ils contrebraquaient le volant sans avoir d'assistance de conduite dynamique, électronique et de trucs comme ça. Oui, c'est une époque pas si lointaine où c'était ça. Et en plus, on le faisait avec des pneus qui étaient souvent très mal adaptés à la conduite hivernale, alors qu'aujourd'hui, tous les outils sont là. Mais, le gros problème se situe, à mon sens, dans la formation des conducteurs. Aujourd'hui, la conduite hivernale, oui, effectivement, pour un jeune qui apprend à conduire, parce que l'exercice se déroule sur un peu plus d'un an, t'as des cours de base qui sont faits durant la saison hivernale. Mais est-ce qu'on apprend à conduire ou est-ce qu'on apprend à respecter le code de la sécurité routière? Parce que là, c'est deux choses complètement différentes. Et le message que je veux passer à travers tout ça, c'est aujourd'hui, en 2022, les cours de conduite n'ont à peu près pas évolué par rapport à ce qu'on enseignait dans les années 80, alors que la situation sur nos routes et la technologie dans les voitures ont complètement changé. Il y a trois fois plus de véhicules sur nos routes, il y a beaucoup plus de technologies embarquées dans les véhicules qui sont plus sécuritaires et qui sont capables de performer davantage, mais jamais on n'a conduit aussi mal au Québec. Et la solution, en ce qui me concerne, c'est pas d'attendre qu'il y ait une révolution dans le monde des écoles de conduite, parce que vous allez attendre longtemps. Je pense que ce qu'il faut, c'est de son plein gré, choisir de payer quelques centaines de dollars pour aller suivre un cours de conduite hivernale avancé, où là, vous allez apprendre, dans un contexte de dérapage contrôlé ou dans un contexte de conduite hivernale, des techniques de contrebraquage, d'évitement d'obstacles, comment utiliser les freins ABS, qu'est-ce que ça signifie le sous-virage, le survirage, l'adhérence au sol avec les pneumatiques. Tout ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas dans les cours de conduite et ça donne le résultat qu'on a vu dans les derniers jours, des carambolages multiples pour des raisons que j'explique difficilement.
Ben c'est ça, j'allais te poser la question, Antoine. Là il y en a quatre ce matin là, sur les autoroutes. À part la vitesse là, qui est évitante, puis une invitation aux camionneurs de lever le pied un peu, là, on sait que vous devez livrer, on sait que c'est pas facile, on sait que c'est problème de chantier, on le sait, là. Mais en même temps, souvent, vous mettez la vie en danger, là, la vie des autres en danger. Quelles sont, grosso modo, là, les raisons des carambolages là, quand ça arrive, comme ce matin?
En ce qui me concerne, c'est pas nécessairement tant la vitesse que la distraction. Aujourd'hui, les gens sont dans des véhicules où il y a beaucoup de technologies, où on va regarder le GPS, où on va regarder toutes sortes de trucs. On a des systèmes d'assistance à la conduite qui nous donnent une certaine confiance. De plus en plus de gens ont des véhicules 4x4. Tout ça, ça fait en sorte qu'il y a une majorité de conducteurs qui se sentent plus en contrôle ou plus en sécurité de leur véhicule. Et là, quand il arrive le moindre incident, ben ils savent pas quoi faire. Ou ils suivent sur leur véhicule pour qu'il se passe un évitement d'obstacles qui arrive.
Mais Antoine, t'as pas l'impression qu'on roule vite, même, tu sais, pendant une tempête de neige, là, il y a toujours un cabochon ou un smat, là, ou un douchebag qui va rouler dans la voie de gauche, là, pour démontrer que lui, il a pas peur, puis il fonce dans le tas.
C'est bien évident qu'il y a des têtes brûlées, comme n'importe où, dans n'importe quel contexte. Ça, oui. Mais encore une fois, t'sais, moi, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas nécessairement souvent. Écoute, ce matin, je suivais une jeune fille là qui avait à peine 18 ans, qui visiblement n'avait pas son permis de conduire depuis longtemps et qui avait une voiture flambant neuve, une petite Nissan avec le Transit dans la vitre. Elle venait d'avoir sa voiture. Elle roulait 20 km/h sur un boulevard où la limite était à 50. Et je dis pas qu'il fallait suivre la limite ou au moins rouler à 50 ce matin parce que les conditions n'étaient pas les mêmes que des conditions traditionnelles. Mais visiblement, cette jeune fille-là, qui n'avait pas d'expérience, avait peur de se retrouver sur la route, avait peur d'abîmer sa voiture neuve, je sais pas quoi, mais elle causait du danger dans la circulation. Alors, c'est pas nécessairement que la vitesse. C'est la confiance du conducteur, c'est l'expérience de conduite, c'est la formation et c'est d'avoir des yeux tout le tour de la tête. C'est évident qu'il y a plein de gens sur nos routes aujourd'hui qui sont distraits. En ce qui me concerne, c'est la principale cause d'accidents sur nos routes. Et un autre élément aussi qui est important, mais qu'on ne mentionnera jamais dans les médias, j'en ai déjà parlé avec toi d'ailleurs, c'est le fait que on met souvent la cause d'un accident sur la vitesse, mais jamais sur la condition de la voiture elle-même. Parce qu'une voiture qui a des pneus à la fesse, qui a une suspension ruinée, qui a des freins qui fonctionnent pas adéquatement, c'est jamais en cause. Mm-hmm. C'est tout le temps parce que le conducteur allait trop vite. Mais je suis désolé, si la voiture est mal chaussée et que les freins fonctionnent pas bien, ben ça se peut que ça cause un accident. Et ça, c'est jamais de la faute de la négligence du conducteur qui n'entretient pas adéquatement son véhicule. Fait que tout ça pour dire que il faut travailler en ce qui me concerne d'avance. Écoute, on vit au Québec où il y a des hivers 5 mois par année. Et tout ce qu'on constate, c'est que de plus en plus les gens ne savent pas conduire. On ferme les écoles quand il y a 20 cm de neige qui tombe. Écoute, je comprends pas encore qu'on ait fermé les écoles lundi. Parce qu'en ce qui me concerne, il y a neigé, mais en ce qui me concerne, moi, c'était pas une tempête de neige effrayante. Mais on ferme les écoles parce qu'on a peur que les autobus se rendent pas, parce que les gens veulent pas se déplacer. Écoute, c'est des conditions routières hivernales. On habite au Québec. Je pense qu'on est capable de composer avec ça. Encore faut-il être capable d'avoir les outils, avoir la formation et savoir ce qu'on fait et pas juste se fier sur la voiture et sur les autres.
Il y a, avant qu'on se quitte, Antoine, un mot sur ce nouveau marché là de la minivan qui, je pense que ça renaît. Là.
Ben en fait, c'est en train de mourir. Si je me fie aux statistiques de cette année, Chrysler a carrément perdu le momentum. Chrysler a dominé le marché de la fourgonnette depuis 1984. Et depuis l'abandon de la Dodge Grand Caravan l'année passée, les ventes sont en chute libre, au point où on se demande si on va continuer à fabriquer des fourgonnettes dans les prochaines années chez Chrysler. Mais en contrepartie, il y a Volkswagen qui, dans quelques semaines, le 9 mars en fait, va dévoiler de façon officielle ce qu'on surnomme actuellement le microbus, mais qui sera le Volkswagen Combi ou le Westphalia nouveau genre, mais qui sera cette fois 100% électrique. Et c'est un véhicule qui risque d'être non seulement impressionnant pour son habitabilité puis pour son rendement énergétique, parce que ça sera 100% électrique et que les batteries seront quand même assez volumineuses, mais aussi parce que ça pourrait faire en sorte que la fourgonnette redevienne cool aux yeux des jeunes familles. Parce que si tu demandes à n'importe quelle mère de famille aujourd'hui, si elle veut conduire une fourgonnette, elle va te dire non, jamais. parce que, bon, écoute, moi, je suis de la génération dont les parents ont conduit des Ford Aerostar puis des Plymouth Voyageurs, là. Mais donc, on veut pas conduire la même chose que nos parents. Mais ouais. Il en demeure pas moins qu'il y a rien de plus pratique qu'une fourgonnette pour la famille. Et les ventes sont en baisse parce que aujourd'hui, c'est pas cool de conduire une minivan. J'ai l'impression que Volkswagen, avec ce nouveau produit-là, va réussir à relancer non seulement un segment, mais redonner une image pas mal plus fun et plus cool que ce qu'on a en ce moment, parce qu'il n'y a rien de plus plate sur la route qu'une Dodge Caravan ou une Toyota Sienna, bien que ce soit très pratique.
Bon, c'est pas juste d'être pratique, hein? Faut être cute aussi, hein? C'est ça, la leçon.
C'est très important.
Antoine Joubert du Guide de l'Auto, merci. À la semaine prochaine.
Merci. Bye bye. Salut.